Pour ce 37e épisode, nous allons établir qu'est-ce qui fait qu'une entreprise est une techno. Nous allons aussi voir les éléments à considérer lors de l'analyse d'une compagnie du troisième ère du value investing, tout en abordant différents exemples tout au long de l'épisode. Ici Jonathan Brunette et bienvenue à La Vraie Valeur. Le contenu de ce podcast reflète seulement mes opinions personnelles. Toutes les informations et commentaires que vous entendrez proviennent uniquement de mes propres recherches et réflexions. Notez que les émissions sont à titre informatif et ne constituent pas des conseils ou recommandations d'investissement. Bonjour et bienvenue au podcast À Vraie Valeur. Donc aujourd'hui, on va regarder la troisième ère du value investing. Donc on va essayer de voir comment on peut évaluer les nouvelles compagnies qui utilisent la technologie. J'aimerais d'abord remercier Alain qui a partagé une question dans la communauté du podcast À Vraie Valeur. Dans le fond, Alain a demandé s'il existe un livre pour évaluer les entreprises de la nouvelle économie, à savoir les technologies, les compagnies d'intelligence artificielle, les nuages et autres. Et entre autres, il mentionne que c'est compliqué d'essayer d'identifier les compagnies du futur parce que pour une grande partie, elles ne font aucun profit à leur début. Ça, c'est vraiment une excellente question et je suis entièrement d'accord que ça peut être difficile. Par contre, je ne connais pas de livre précisément là-dessus. Si vous en connaissez, je vous invite fortement à partager ces livres-là dans la communauté du podcast La Vraie Valeur. Donc, on va pouvoir lire un peu plus là-dessus. Mais aujourd'hui, je vais essayer de faire mon mieux pour tenter de répondre à la question. Parce que, comme j'ai dit, c'est vraiment une bonne question, puis il faut savoir comment s'y prendre parce que c'est vraiment, ça touche la grande majorité des nouvelles entreprises en bourse aujourd'hui. Alors pour commencer, on pourrait définir c'est quoi une compagnie technologique? Comment on considère qu'une entreprise est une techno? Si je prends l'exemple d'un cinéma qui utilise la technologie pour faire ses activités, donc on peut acheter des billets en ligne, quand on arrive au cinéma, on a juste à faire scanner notre billet qui est sur notre téléphone avec un scanner électrique à l'entrée, puis ça nous laisse passer. Est-ce qu'on considère le cinéma comme une techno? Sinon, si je prends l'exemple d'une ferme qui utilise la technologie pour faire ses activités, donc par exemple pour traire les vaches et des grosses machines, pour récolter les cultures dans les champs, c'est des tracteurs qui sont 100% automatisés puis qui sont contrôlés par un ordinateur à distance, est-ce que ça fait que la ferme est une techno? Alors c'est ça la question qu'il faut se poser et je vais vous dire que pas mal toutes les entreprises aujourd'hui utilisent la technologie pour faire leurs activités. Donc, on peut pas simplement dire que Facebook, c'est une tech, parce que son principal secteur d'activité, c'est la communication et la publicité. Même si c'est des entreprises qui sont technologiques, il faut quand même les classer dans leur secteur d'activité pour ensuite les comparer avec les autres entreprises. Donc, comme j'ai dit, par exemple, Facebook, c'est un réseau social, donc les gens peuvent communiquer entre eux. On peut donc le classifier dans le secteur de communication, mais aussi publicitaire, parce que c'est avec les publicités que Facebook génère ses revenus. Netflix, on pourrait le classer dans le divertissement. Amazon, il y a comme plusieurs secteurs. Il y a la plateforme de vente, donc une plateforme qui permet aux vendeurs et aux acheteurs de communiquer entre eux. On a le AWS, donc le cloud d'Amazon. On a le retail, donc les produits que Amazon vend pour attirer des utilisateurs. Et on a la publicité, donc des produits que les vendeurs affichent sur le site d'Amazon pour attirer des acheteurs. Et ça génère un revenu publicitaire à Amazon. On a aussi Apple, donc ça serait une compagnie qui serait plus facile à classifier comme étant une tech parce qu'elle produit, elle fabrique des objets technologiques, mais on pourrait plus la classifier dans le secteur de vente de commodités à cause que leurs produits deviennent de plus en plus essentiels à la vie courante au quotidien. Imaginez aujourd'hui vivre sans téléphone, c'est beaucoup plus difficile, donc c'est devenu une commodité. Aussi, Apple va offrir des services musicaux, un service de nouvelles, un service de nuagerie. Donc, on peut vraiment le classifier dans différentes catégories et essayer de les comparer, de comparer l'entreprise avec les autres entreprises. Et qu'est-ce qui est spécial avec Apple, c'est qu'elle va faire concurrence avec plusieurs entreprises qu'on ne considérait pas comme des tech. Par exemple, sur leur téléphone, il y a une lampe de poche. On peut avoir une fonction de numériser des documents. Donc ça fait concurrence à des compagnies qui produisent des lampes de poche, aussi à des compagnies qui produisent des scanners, donc des numériseurs. Puis ces compagnies-là, c'est sûr qu'ils sont plus en difficulté qu'il y a une couple d'années quand les téléphones n'existaient pas, mais on ne les considérait pas nécessairement comme des tech. C'était plus ils vendaient des produits de commodité. Donc, Apple fait directement concurrence avec eux et c'est pourquoi c'est important d'attribuer à chaque compagnie son vrai secteur d'activité et non juste le classifier comme étant une tech, parce que sinon, si Facebook, Netflix, Amazon et Apple seraient seulement des tech et rien d'autre, bien, on faudrait comparer à ce moment-là Apple avec Facebook. Et là, ça fait vraiment plus de sens parce que Apple, vraiment sa base, c'est d'avoir aucune publicité dans dans ses services, dans ses téléphones. Tout est super sécurisé. Tandis que Facebook fait de l'argent avec les publicités. Donc, c'est deux choses complètement différentes. Donc, à quelle compagnie on pourrait attribuer le terme technologique? En fait, c'est les entreprises comme étant des compagnies perturbatrices et qui ne sont pas nécessairement accessibles à tout le monde au début. Ils vont vraiment essayer de révolutionner le marché. Pour mieux comprendre ce phénomène-là, je vous invite à l'écouter l'épisode 2 qui s'appelle « Les entreprises perturbatrices » et vous allez un peu mieux comprendre le genre d'entreprise qui pourrait émerger et perturber leur secteur d'activité. Donc maintenant qu'on tient en compte que chaque entreprise a son propre secteur d'activité et que maintenant, si une entreprise n'utilise pas la technologie, c'est vraiment dur de rester en compétition, on peut essayer de voir des éléments pour les évaluer. Il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Si je commence par le fait qu'une entreprise aujourd'hui, son marché va devenir international. Donc avec Internet, puisque la plupart des personnes sur la planète ont accès à Internet, ils pourront profiter du service offert par l'entreprise. Par exemple, avant Internet, quand on possédait un restaurant, pour grossir, il fallait ouvrir d'autres restaurants. Puis ça, même si on va toucher plus de monde dans plus de villes, bien, notre marge de profit ne va pas nécessairement augmenter parce que ça va quand même coûter le loyer, la nourriture. C'est les mêmes. Vous allez avoir à peu près la même marge de profit. Mais puisque vous allez générer plus de revenus, à ce moment-là, vos profits vont augmenter. Mais sinon, ça coûte quand même la base d'avoir un restaurant, payer les serveurs, les chefs cuisiniers, payer le loyer, la nourriture, l'électricité, etc. Et aujourd'hui, une compagnie en ligne aura beaucoup plus de contrôle sur ses dépenses. Donc, quand elle grossit, sa marge de profit va aussi augmenter parce qu'il n'y a pas plus de coûts à grossir. Qu'il y ait plus d'utilisateurs. C'est sûr que ça peut. Il va falloir peut-être débourser un peu plus pour acheter d'autres serveurs, à maintenir les serveurs, payer un peu plus d'électricité, mais c'est rien comparé à tous les coûts reliés à ouvrir un nouveau restaurant. La deuxième chose qu'on pourrait prendre en compte et qui était un élément de la question de Alain, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui émergent qui ne font peu ou pas de profit. Alors ça constitue vraiment la troisième ère du value investing. Je vous invite à l'écouter l'épisode 27, l'évolution de l'investissement valeur. Vous allez y voir qu'il y a trois ères du value investing et que là, on aborde où on est dedans la troisième ère. Ici, je vous résume un peu rapidement l'épisode 27. On va accorder peu d'importance à la marque. On va avoir une grande rapidité de l'information. On va aussi avoir une grande rapidité des changements. Donc, aujourd'hui, c'est quand même facile de se lancer en entreprise. Et les gens sont fortement encouragés aussi à se lancer en affaires. Et un autre élément, c'est que les compagnies vont être peu ou pas profitables. Donc, il y a plusieurs compagnies qui vont choisir de ne pas faire de profit et au lieu de ça, de réinvestir dans elles-mêmes pour être les leaders, pour être les premiers dans leur domaine. Donc, ils veulent essayer d'atteindre la masse critique pour rester les premiers. Si je vous donne l'exemple de Netflix, si Netflix arrête de faire du contenu du jour au lendemain, ben, leurs profits vont vraiment exploser. Ça va être vraiment énorme. Par contre, là, ils continuent de produire du contenu pour attirer des utilisateurs sur leur plateforme et s'assurer d'avoir une bonne base d'utilisateurs. Spotify, c'est la même chose. Ils investissent dans la recherche et le développement. Ils investissent aussi pour acquérir des podcasts. Et tout ça, ça va attirer des utilisateurs. Amazon aussi n'a pas fait de profit pendant longtemps. Et ils ont fortement investi dans AWS, leur service de nuagerie, qui génère le plus gros du profit aujourd'hui. Donc, si je vous donne l'exemple de mon podcast, Là, malheureusement, le podcast ne génère aucun revenu. Mais si j'en générais et que je réinvestissais tout cet argent-là, tout mon profit dans mon podcast pour essayer de grossir, par exemple, j'engage quelqu'un qui fait mon montage, comme ça je peux produire plus de contenu, je mets de l'argent dans du marketing pour grossir sur les réseaux sociaux. Mais là, je vais attirer beaucoup de personnes qui vont écouter mon podcast et ces personnes-là vont partager avec leurs amis mes épisodes. Donc là, je vais avoir de plus en plus d'utilisateurs et ça va grossir exponentiellement. Donc, il y a beaucoup de personnes qui pensent que faire ça, ça vaut rien. Mais il faut prendre ça en compte dans notre évaluation. Ça compte vraiment pour beaucoup parce que c'est vraiment en établissant une masse critique de personnes qu'après ça, le nombre d'utilisateurs va grossir rapidement. Si vous voulez savoir un peu plus comment évaluer une tech ou plutôt une entreprise qui utilise la technologie, je vous invite à aller écouter mon épisode numéro 5 qui s'intitule « Comment trouver la valeur de Facebook ». Dedans, je vous explique toutes les étapes pour évaluer Facebook. C'est sûr que les chiffres ne vont pas être à jour, mais ça vous donne une bonne idée générale et vous allez voir que c'est assez relatif comme calcul. Ça va surtout dépendre de vous, de votre compréhension de l'entreprise et où vous voyez l'entreprise dans le futur. Donc là, c'est sûr, c'est un exemple pour une compagnie qui est profitable, mais si l'entreprise n'était pas profitable, on utiliserait plutôt le ratio court-vente. Donc, le ratio court-bénéfice, c'est quand l'entreprise fait des bénéfices, mais court-vente, c'est seulement en utilisant les revenus générés. Puis avec ça, on pourra comparer des différentes entreprises ensemble qui ne sont pas nécessairement profitables. Pour en savoir plus, je vous invite à l'écouter l'épisode 16 qui se nomme Qu'est-ce qui fait qu'une entreprise est surévaluée? Dedans, je parle du ratio court-vente. Donc, quand on fait une évaluation de la compagnie du troisième R, on a d'autres éléments à prendre en compte. Puis, il faut surtout regarder les éléments fondamentaux pour voir où va s'en aller l'entreprise dans le futur. Et ça, c'est super important à cause qu'il y a une grande facilité de démarrer une entreprise, comme j'ai dit. Et n'importe qui pourrait vous faire concurrence assez facilement. Parlant de concurrence, l'entreprise devrait être un leader dans son domaine. Ou sinon, elle devrait être perturbatrice. Si c'est un leader, donc c'est une entreprise, par exemple Spotify, qui est le numéro un dans la musique, puis vraiment qui se spécialise là-dedans, qui veut vraiment créer un univers audio avec son application, ben dans ce cas-là, Spotify est en bonne position par rapport à ses concurrents. Sinon, l'entreprise devrait être perturbatrice. Donc, comme je vous ai dit, je vous invite à l'écouter l'épisode 2 pour en savoir plus. Mais dans le fond, ça serait une mauvaise idée de toute misée sur une petite compagnie de, disons, de nuagerie qui ressemble à ses gros concurrents, à part si cette entreprise-là a une bonne idée. Donc, elle va difficilement monter par rapport aux autres concurrents si elle fait la même affaire. Donc, si toutes les entreprises faisaient la même affaire, ben les gros joueurs resteraient des gros joueurs. Je peux vous donner deux exemples là-dessus. En premier, on a bien sûr Netflix contre Blockbuster, et entre autres, j'en parle dans l'épisode 2. Si Netflix faisait exactement comme Blockbuster et ouvrait des petits magasins partout et vendrait juste des DVD, pourquoi vous investirez plus dans Netflix que Blockbuster? Qu'est-ce qui vous dit que Netflix va prendre le dessus? Qu'est-ce qui vous dit que... Déjà que Blockbuster était vraiment populaire, il y avait des magasins partout. Par contre, Netflix avait quelque chose de plus. Ils ont décidé d'investir dans Internet et de pouvoir rendre des films disponibles en ligne. Donc, à cause de ça, l'entreprise, premièrement, a pensé au futur. Ils se sont adaptés aux changements technologiques. Puis, ils ont essayé ensuite d'avoir une masse critique en produisant énormément de films, de contenu, en achetant du contenu aussi. Tout ça pour attirer du monde sur leur plateforme sur Internet. Donc, comme vous pouvez voir, au début, c'était pas accessible à tout le monde, Netflix en ligne. Donc, ça a pris un certain temps pour que les gens s'achètent un ordinateur, un téléphone, une tablette. C'était quand même cher à l'époque, mais c'est devenu de plus en plus accessible. Et donc, à ce moment-là, Netflix, on pouvait vraiment considérer ça comme une tech parce que c'était peu accessible et faisait une révolution dans son secteur. Mais aujourd'hui, c'est vraiment plus une compagnie de divertissement et elle utilise la technologie juste simplement pour distribuer son contenu. Sinon, un autre exemple, ça serait Google+ et Facebook. Donc, Google avait lancé un service qui s'appelait Google+ pour faire concurrence avec Facebook, mais ils n'ont jamais atteint la masse critique de personnes sur leur plateforme, donc ça n'a pas réussi. Comme vous pouvez l'imaginer, Google avait beaucoup plus d'argent que Facebook à l'époque, Mais tout de même, ils n'ont pas réussi à faire fonctionner Google Plus comme Facebook parce que les gens, premièrement, ils aimaient beaucoup Facebook, ils étaient déjà là-dessus. Et deuxièmement, il n'y avait pas assez de personnes sur Google Plus pour attirer d'autres personnes. Donc, ils n'ont jamais atteint la masse critique. Donc, quand je vous parle de masse critique, c'est vraiment important pour une entreprise et c'est pour ça qu'elle va investir beaucoup d'argent pour attirer des utilisateurs. Un autre élément à prendre en compte quand on évalue une entreprise qui utilise la technologie, c'est que souvent la valeur au livre ne veut rien dire. L'entreprise ne va pas avoir énormément d'actifs à maintenir et souvent elle ne va pas avoir de dettes. Donc, par exemple, Facebook, ils ont des serveurs à maintenir, des bureaux, mais pas plus que ça. Donc, en regardant les états financiers, on ne va pas voir beaucoup de valeur dans les actifs, mais vraiment, sa vraie valeur va résider sur Internet et c'est pour ça qu'on va être prêt à payer plus cher pour une entreprise comme ça. Finalement, un autre élément à considérer quand on fait l'évaluation d'une compagnie, ça serait le management, bien sûr. Ils doivent être honnêtes et ils doivent rechercher l'innovation et le développement constamment. Il y a une présentation qui m'a fortement marqué récemment. C'est la présentation de Spotify qui est sortie le 22 février 2021. J'ai mis le lien dans la description. Je vous invite fortement à l'écouter, cette présentation-là. Ça dure environ une heure et demie. C'est sûr qu'il y a certains bouts que vous pouvez avancer. Il y a de la musique à la fin aussi. Mais c'était vraiment une bonne présentation sur les innovations que Spotify va amener à sa plateforme. Par exemple, au niveau musical, ils ont instauré le service Radar qui permet de découvrir des nouveaux artistes. Ils ont aussi instauré des programmes de publicité pour des artistes. Donc, par exemple, vous vous promenez à Times Square, vous allez voir des publicités de Spotify qui promouvoit des artistes. Donc, vous allez juste voir le nom d'un artiste avec sa photo, avec un petit logo de Spotify. Donc, c'est vraiment Spotify qui veut promouvoir ses artistes. Puis ça, je trouve ça super bien. Spotify va aussi offrir des outils pour les créateurs. Donc, ça peut être la possibilité de diffuser des vidéos dans la plateforme. Il peut avoir des albums spéciaux pour certains artistes qui sont mis plus haut dans votre fil d'actualité. On va aussi avoir des stories sur la plateforme de Spotify. Donc, ça s'en vient. Ils parlent de ça dans leur présentation. Aussi, un autre élément qui s'en vient, c'est Spotify Hi-Fi. Donc, ça va vous... En payant un peu plus par mois, vous allez pouvoir écouter de la musique de meilleure qualité. Donc, c'est tout des éléments qui prouvent que Spotify étudie constamment et cherche à développer sa plateforme pour attirer plus de personnes. Au niveau des podcasts, ils ont fait beaucoup d'acquisitions et entre autres, ils ont fait un partenariat avec DC Comics. Donc, DC Comics va produire une série de podcasts sur Batman. Donc, ça va être comme si vous écoutiez un film, mais seulement dans vos oreilles. Puis, il va avoir de l'action, des bruits spéciaux tout autour de vous. Vous allez même entendre des personnages parler juste à côté de votre oreille, au-dessus de votre épaule. Donc, ça va vraiment être une expérience en 360 degrés. On a aussi d'autres nouveautés pour les podcasts, comme la possibilité de lier un blog WordPress avec Spotify. Donc, les créateurs d'un blog vont pouvoir transformer ce blog-là en podcast plus facilement. On va aussi avoir la possibilité de faire un questions et réponses directement sur les épisodes dans l'application. Donc, si vous avez, par exemple, une question sur le podcast d'aujourd'hui, vous allez pouvoir poser votre question directement dans l'application Spotify et je vais pouvoir vous y répondre. Donc ça, j'ai bien hâte que ça arrive puis ça va être super le fun à utiliser. Aussi, il parle beaucoup de la découverte de musique et de podcasts. Comme vous savez, Spotify est vraiment fort sur les algorithmes. Ils sont forts pour faire découvrir des nouveautés à ses utilisateurs. Puis vraiment, qu'est-ce qu'ils disent dans la présentation? C'est qu'ils veulent faire vivre une expérience différente pour chaque utilisateur. Donc, quand vous utilisez Spotify, c'est pas du tout la même qu'un autre. Puis personne n'a la même expérience parce que c'est vraiment des algorithmes qui sont créés sur mesure pour vous. Puis avec ça, ils veulent vous faire découvrir des nouvelles chansons, des nouveaux podcasts et vous faire sortir de votre zone de confort pour découvrir plus de choses. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, c'est très difficile de créer des algorithmes. Puis un exemple que j'ai adoré, qui donnait dans leur présentation, c'est, disons, les chansons pour la voiture. Quand on pense à des chansons pour écouter dans la voiture, ça va souvent être des chansons joyeuses, des chansons qu'on peut chanter à tue-tête. Mais essayez de dire ça à un algorithme. C'est ça qui n'est pas facile. Donc, eux autres, ils travaillent fort pour développer des algorithmes qui vont reconnaître ce genre de musique-là et les mettre dans une playlist intitulée « Musique pour chanter dans la voiture ». Vous pourriez penser que ces chansons-là sont mises ensemble dans une playlist pour la voiture, mais c'est vraiment des algorithmes qui ont créé ça. Et souvent, ces playlists-là vont être différentes d'une personne à l'autre parce que ça va être selon les goûts de chaque personne. Et à date, ça a l'air de bien marcher parce que j'ai pas entendu de Beethoven quand je roulais en voiture. Donc, on peut voir qu'ils sont quand même très forts sur les algorithmes et qu'ils n'arrêtent pas de les développer. Aussi, ils ont apporté de nouveaux éléments dans leur plateforme pour faire de la découverte. Par exemple, on a les nouveaux mix, qui sont comme des mix quotidiens, qui vont changer à chaque jour selon qu'est-ce que vous écoutez et qui vont vous permettre de découvrir des nouvelles chansons. Puis, ils disent qu'ils veulent faire découvrir les podcasts au même niveau que la musique. Là, quand j'utilise l'application, j'ai l'impression de découvrir beaucoup plus de musique que de podcasts. Mais ça s'en vient. Ils poussent fortement les podcasts parce qu'ils croient vraiment à ça pour le futur. Donc, c'est vraiment quelque chose de super bien. Et finalement, tout récemment, ils ont rendu disponible leur plateforme dans 80 nouveaux pays. Aussi, ils ont amené des nouvelles langues dans leur application. Donc, ça permet de toucher beaucoup plus de personnes. Alors, encore une fois, je vous invite vraiment à l'écouter, cette présentation-là. Le lien est dans la description. J'ai adoré, étrangement, comment ils ont filmé la présentation aussi. Ça m'a fait penser à une présentation de Apple qui annonçait des nouveaux produits. Mais là, c'était Spotify qui annonçait des nouveautés pour leur plateforme. J'ai vraiment adoré. Et honnêtement, ça a un peu changé la perception que j'ai envers Spotify. C'est-à-dire qu'avant, quand j'utilisais l'application, OK, j'écoute de la musique, j'écoute des podcasts. Mais après avoir écouté la présentation, je vois tout le travail qui est fait derrière, tous les algorithmes qui sont en place pour moi, pour m'aider à faire des découvertes, puis j'utilise l'application un peu différemment. Donc sinon, c'est sûr qu'il y a plusieurs éléments à prendre en compte quand on évalue une entreprise, mais il y a des choses qui reviennent pour les entreprises qui utilisent la technologie pour faire leurs activités. Et par exemple, ces compagnies-là vont souvent avoir beaucoup de liquidités, peu de dettes. Ils vont avoir un nombre quasi illimité d'utilisateurs. Puis un utilisateur, il va se sentir très attaché à la plateforme. C'est difficile de s'en départir. Et aussi, il y a une grande facilité d'entrée pour les nouveaux utilisateurs. Donc, par exemple, c'est super facile de se créer un compte Facebook. Ça prend quelques minutes. Mais une fois qu'on est dedans, puis qu'on a beaucoup d'amis, qu'on utilise l'application à tous les jours, bien, c'est difficile du jour au lendemain de se dire « OK, moi, je quitte l'application ». Donc, ça peut rendre un peu accro, puis c'est pas toujours bon pour certaines personnes. Mais en même temps, c'est bon pour l'entreprise et ça génère beaucoup de revenus comme ça. Alors, c'est ça qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. Je répète encore que c'est important de regarder les éléments fondamentaux pour voir où ira l'entreprise dans le futur. Aujourd'hui, on a une grande facilité d'accès à l'information. On a accès à divers articles, divers points de vue. Donc, c'est facile de se faire une bonne idée à propos de l'entreprise. Et il reste donc seulement à faire un bon travail de recherche et d'analyse. Je parle beaucoup des éléments fondamentaux parce que oui, c'est important, c'est très important même d'étudier les états financiers, combien l'entreprise génère ou que vont ses dépenses, mais souvent, on va reporter ça beaucoup plus dans le futur et on va acheter une entreprise aujourd'hui pour le futur parce qu'on croit que dans le futur, elle va croître. Donc, c'est pour ça que c'est important de regarder les éléments fondamentaux pour voir à quel point elle est solide aujourd'hui et où elle ira dans le futur pour ne pas se faire perturber par d'autres entreprises qui émergent. Alors, si vous aussi, vous avez une question ou un commentaire, je vous invite à faire comme Alain et à partager dans la communauté du podcast La Vraie Valeur. Je remercie encore une fois pour la question. J'espère pouvoir avoir aidé un peu. Malheureusement, je ne connais pas de livre là-dessus exactement, mais ceux qui en connaissent, je vous invite à les partager dans la communauté du podcast La Vraie Valeur. Alors, pour toute question ou commentaire, je vous invite à écrire à info@commercialinvestissementvaleur.com. Le lien pour la communauté va être dans la description. Et n'oubliez pas que le contenu de ce podcast reflète seulement mes opinions personnelles. Toutes les informations et commentaires que vous avez entendus proviennent uniquement de mes propres recherches et réflexions. Notez que les émissions sont à titre informatif et ne constituent pas des conseils ou recommandations d'investissement. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour un autre épisode de La Vraie Valeur.